France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Caroline Eliachef.
Bonjour. Grâce à Lucia, Elvira et Amina, je vais vous parler de la folie. Non, ce ne sont pas des patientes, comme vous pourriez le croire, mais les héroïnes de trois opéras, Lucia de la mer Mourde de Donizetti, Les Puritains et la Somnambule de Bellini. Je ne suis pas folle, c'est ce que disent les personnes qui ne veulent pas consulter, mais dont l'entourage pense qu'elles en auraient bien besoin. La peur d'être fou ou de devenir fou est souvent exprimée pendant une cure, de façon angoissée ou humoristique, ce qui est un peu pareil. Les enfants aussi ont peur d'être fous ou d'être pris pour un fou, notamment si leurs camarades apprennent qu'ils consultent un psy, car on ne prononce pas le mot psychanalyste dans une cour d'école. Qu'est-ce que ces trois femmes ont en commun et en quoi les scènes de folie correspondent à la psychiatrie de l'époque ? Oui, je sais, cette émission s'appelle l'inconscient. Mais un peu d'histoire permet de comprendre que les psychiatres, pas seulement Charcot, s'en approchaient. Puis, grâce à la psychanalyse, je vous parlerai de ce que peut signifier la voix de la diva et les effets qu'elle provoque chez le spectateur. Ensuite, je répondrai aux questions que vous m'avez adressées sur notre page L'inconscient sur franceinter.fr.
L'inconscient avec Caroline Eliachef sur France Inter.
Michel Foucault écrivait « La folie est le plus vif de nos dangers et notre vérité peut être la plus proche », tandis que Jacques Derrida se demandait « Comment rendre compte d'une parole de folie, sinon dans les termes de la raison elle-même, à moins, répondait-il, de le faire par la littérature ou la poésie, mais en omettant curieusement de citer la musique ». Et si l'opéra, selon le psychanalyste et écrivain Michel Schneider, c'est la musique rendue malade et folle, c'est le texte fait cri ou caresse, on n'est pas surpris que ce qu'on appelle les scènes de folie, celles où le héros, mais plus souvent l'héroïne, bascule dans la démesure, soit une tradition, un passage obligé pour le compositeur ou pour la diva, surtout à l'époque romantique d'ailleurs. Les spectateurs, eux, anticipent le plaisir qu'ils vont tirer de la musique et surtout de la voix poussée dans ses excès. Ils en deviennent capables d'exprimer un enthousiasme ou une déception tout aussi excessive que la folie elle-même. Il y a une autre raison pour rapprocher l'opéra de la psychiatrie. Ils sont nés à la même époque, même si on ne peut pas en déduire une relation de cause à effet. Certes, il y a toujours eu des fous, mais Michel Foucault fait naître la psychiatrie, ou plus exactement l'institution des savoirs sur la folie, avec la naissance d'un lieu, l'Hôpital Général, en 1656. La naissance de l'opéra, elle, daterait de 1600, avec la représentation d'Orphée et Eurydice de Jacopo Peri pour le mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis au Palais Pitti de Florence. À moins qu'on ne retienne l'Orfeo de Monteverdi en 1607, encore réservé à la noblesse, ou l'ouverture à Venise du premier théâtre public d'opéra en 1637. Dès l'origine, l'opéra, s'inspirant de thèmes mythologiques, a traité des passions, tandis que la musique a cherché à traduire le délire et la démence qui y sont facilement associés. Nos trois opéras ont été créés dans la première moitié du XIXe siècle, quasiment au même moment. La Somnambule en 1831, Lucia et les Puritains en 1835. Donizetti et Bellini étant l'un et l'autre, à l'époque, au sommet de leur notoriété, mais pas loin de leur mort, puisque Bellini est mort en 1835 à 34 ans, 9 mois après la création des Puritains, et Donizetti en 1848. Que se passait-il à l'époque en psychiatrie ? Philippe Pinel, le célèbre aliéniste français mort en 1826, a bouleversé le regard sur les fous, ou aliénés comme on disait à l'époque, qui étaient considérés comme des êtres dangereux à exclure de la société. Il affirmait qu'ils pouvaient être compris et soignés grâce à un traitement moral. Le médecin devait comprendre la logique du délire de son patient, puis s'appuyer sur le reste de raison demeurant chez tout aliéné, pour le forcer peu à peu à reconnaître ses erreurs en usant du dialogue, mais aussi au besoin de son autorité. À la suite de Pinel, puis d'Esquirol, Esquirol, vous savez, c'est à lui qu'on doit la fameuse loi de 1838 qui protégeait les aliénés en obligeant chaque département à construire son asile et en définissant les modalités d'internement. Donc, à la suite de Pinel puis d'Esquirol, la société tout entière modifie progressivement son regard sur la folie, notamment celle des femmes. Pourquoi les femmes ? Parce que c'est sur elles principalement que pèse le poids des interdits familiaux, l'oppression de la société, la dépendance envers leur père puis leur mari, et que nombre d'entre elles n'ont d'autre issue que la folie pour s'en échapper. La folie est considérée comme déclenchée par un événement, on dira plus tard un traumatisme, la perte de l'homme aimé, la trahison, l'abandon. Mais elle n'arrive pas à n'importe qui. La femme est vulnérable, soit parce qu'elle est orpheline, soit parce qu'elle manque de maturité. Enfin, la crise de folie se déclenche à un moment précis d'impuissance, d'impasse ou d'impossibilité à affronter le traumatisme. C'est la tragédie des destins contrariés. Ces accès de folie se manifestent par des réactions psychotiques, au sens où le sujet perd contact avec la réalité, délire, ou se trouve dans un état confusionnel aigu, au cours duquel il peut passer à l'acte, en tuant ou en se tuant. Mais il peut aussi sortir de cet état, notamment à la faveur d'un autre événement choc. Or, à cette époque, l'opéra met justement en scène des accès de folie réactionnels à un événement traumatique, chez une personne vulnérable, quelle que soit l'époque où se situe l'action. Pour Lucia comme pour Elvira, l'action se situe au XVIIe siècle et pour Amina au XIXe siècle. Bien que très différentes, toutes trois sont des jeunes filles sans expérience, ayant perdu leur mère ou leurs deux parents, comme Lucia et Amina. Elles sont totalement dépendantes de leur tuteur ou de leur futur mari qui vont les instrumentaliser. Vous connaissez peut-être la boutade de Bernard Shaw qui disait que l'opéra italien, c'est l'éternelle histoire d'un ténor qui veut coucher avec une soprano tandis qu'un parent les en empêche. Boutade que Michel Schneider renverse en disant qu'une soprano veut coucher avec un baryton et écarter le ténor importun. Ce qui tendrait à prouver que la victime n'est pas forcément passive ou que l'identification à la victime n'attire pas que la compassion. Quand une soprano chante sa douleur, on ne compatit pas, on l'adule ou on la siffle. Pour comprendre l'événement extérieur déclenchant la scène de folie, je vais brièvement résumer l'argument délivré. Lucia de Lammermoor et Edgardo s'aiment. Mais comme dans Roméo et Juliette, les deux familles sont ennemies. Enrico, le frère de Lucia, veut la marier avec Arturo. Pendant l'absence de son amoureux, le frère tente de prouver à Lucia que son fiancé l'a trahi en exhibant une lettre falsifiée. C'est le premier moment où la raison de Lucia bascule. Trahison, abandon et soumission à la volonté de son frère. Pas si soumise que ça d'ailleurs, car la grande scène de folie de l'acte 3 a lieu après qu'elle a tué l'époux qui lui a été imposé. Scène de délire où elle croit avoir épousé Edgardo et l'avoir tué. Retour à la réalité quand son fiancé réapparaît. Avant de mourir de douleur, elle l'implore de la rejoindre, ce qu'il fera. Triste fin pour Lucia, qui, si elle avait survécu, aurait certainement été considérée comme irresponsable au moment de son crime, ce qui laisse ouvertes les interprétations nombreuses qui en ont été proposées. Que tue-t-elle en tuant Arturo? La question reste ouverte, mais Lucia aurait pu dire comme Antonin Artaud, on n'est jamais seul pour se suicider.
France Inter, l'inconscient, cette semaine avec Caroline Eliachef.
Pour Elvira, dans Les Puritains, trahison et abandon sont aussi les événements déclenchants, doublés de ce qu'on appellerait aujourd'hui un effondrement narcissique. Elvira doit épouser Arturo du parti des Stuarts, tandis que son père est partisan de Cromwell, mais il ne s'oppose pas à l'union. Arturo apporte son voile de mariée à sa fiancée et découvre par là même que sa reine est prisonnière dans la forteresse. Elvira entre en scène, parée de son voile. C'est l'air le plus célèbre de la partition, une polonaise à 3 temps avec des vocalises d'une extrême difficulté. Elvira demande à la prisonnière d'essayer son voile, pourtant le symbole de son union avec Arturo. Ce geste va suggérer à Arturo le stratagème pour sauver la reine, dont il l'enveloppe pour s'évader avec elle. Mais que signifie le geste d'Elvira qui va entraîner sa chute? Une compassion pour la reine dont elle ne connaît pas l'identité? La nécessité de voir une autre femme porter ce voile pour s'imaginer elle-même pouvoir le porter? Tout est possible. La joie d'Elvira fait place au désespoir. Avec la fuite du couple, sa raison bascule. Trahison et abandon entraînent une crise de dépersonnalisation. C'est la fin de l'acte 1. Elvira lance un appel poignant à Arturo, tandis que le cœur commente « Elle vivra folle ou mourra malheureuse ». La scène de folie se situe au deuxième acte que le chœur introduit avec 3 mots « douleur, terreur et pitié ». L'oncle d'Elvira raconte sa folie avant qu'elle-même n'apparaisse, chantant déjà depuis les coulisses « Rendez-moi l'espoir ou laissez-moi mourir ». Elle vit entre le déni de l'effondrement de ses projets d'avenir et la reprise de contact avec la dure réalité qui engendre désespoir et désir de mort, écrivent les 3 auteurs de « La folie à l'opéra ». Mois plus tard, Arturo revient incognito chercher Elvira et se justifie à ses yeux. Elle semble recouvrer la raison, mais quand Arturo veut l'emmener, sa raison s'égare par peur d'être à nouveau abandonnée et elle appelle au secours. Du coup, Arturo est découvert, arrêté et condamné à mort. Elvira se rend compte qu'elle est responsable de son arrestation. Sa souffrance est lucide et donne la clé de son conflit intérieur qui explique des comportements qu'elle ne maîtrise pas. C'est l'impossibilité d'aimer Arturo en restant fidèle aux convictions de son père, puisqu'ils appartiennent à des camps politiques opposés, qui rend compte de son imprudence. Mais coup de théâtre, un messager vient annoncer la défaite des Stuarts et l'amnistie des prisonniers, ce qui scellera le bonheur des amants enfin réunis. Comme quoi, quand tout s'arrange, la folie n'a plus de fonction. On pourrait dire d'Elvira, non pas qu'elle est délirante, mais qu'elle est délirée par les événements. Le cas d'Amina dans La Somnambule est celui qui nous rapproche le plus de la découverte de l'inconscient, au sens où le conflit est interne et non plus déclenché par un événement extérieur. Amina est une orpheline qui épouse Elvino. Essayez de me suivre parce que c'est compliqué. Un étranger réapparaît au village après des années d'absence. C'est le comte Rodolfo, le fils du défunt châtelain. Il complimente Amina, rendant jaloux le fiancé, qui n'a peut-être pas tort, car le comte a déclaré « que ton époux t'aime comme j'aurais su t'aimer ». Mais ce fameux comte s'intéresse aussi à Lisa l'aubergiste, tandis qu'Amina, en crise de somnambulisme, pénètre dans la chambre du comte par la fenêtre. Dans son sommeil, elle parle de son mariage, de la scène de jalousie d'Elvino, son fiancé, de sa fidélité, mais pas du tout du comte. Celui-ci va éteindre les bougies et sortir par la fenêtre, ne profitant nullement de la situation. Amina, endormie, sera découverte par les gens qui viennent saluer le comte, et notamment Elvino. Elle se réveille dans cette situation accablante, puisqu'elle est couchée dans la chambre du comte. C'est une nouvelle crise de somnambulisme qui sauvera son honneur, car à la différence de la première, elle se passera devant témoins le lendemain à la tombée de la nuit. Amina, endormie, s'aventure sur une passerelle pourrie au-dessus de la roue du moulin, passerelle qui s'écroule juste après son passage. Toujours endormie, elle se dirige vers les villageois et dit son désespoir. À l'époque, les crises de somnambulisme étaient connues sans que l'on en sache l'origine. L'acte d'Amina, se rendre dans le lit du comte, contredit les pensées qu'elle exprime dans son sommeil, à savoir sa fidélité à son fiancé. C'est toujours un événement extérieur qui déclenche la scène de folie, qui est plutôt d'ailleurs une scène de désespoir. Mais on a assisté à un conflit intérieur entre ses paroles inconscientes et le préconscient, qui dirige son corps somnambule. Pour autant, Freud et Breuer n'ont pas encore publié les études sur l'hystérie qui datent de 1895 et le somnambulisme aura bon dos pour excuser Amina et rassurer le brave Elvino qui n'y verra que du feu. Les extraits de presse de l'époque disent que les deux interprètes principaux ont conduit le public jusqu'au bord de la folie. La musique et les voix ont été appréciées, mais on peut aussi imaginer que les spectateurs de l'époque ont ressenti l'ambivalence inconsciente de l'âme humaine et en ont été touchés. Si, comme le dit Wagner, le travail de l'artiste, c'est d'être conscient de l'inconscient, les scènes de folie s'approchent au plus près de cette définition. Je vous ai parlé des rapports entre l'état de la psychiatrie et les scènes de folie au XIXe siècle, et j'en viens maintenant au rapport entre la psychanalyse et l'opéra. Michel Schneider a écrit sur ce sujet un livre passionnant, Prima Donna, Opéra et Inconscient, chez Odile Jacob, dont je me suis largement inspirée. Et c'est en avouant ce que d'aucuns dénonceraient comme un plagiat que je lui rends hommage. Sans prétendre à l'exhaustivité, je vais d'abord faire quelques rapprochements entre opéra et psychanalyse. À l'opéra, les femmes souffrent et la psychanalyse est née de l'écoute de la souffrance des femmes. Freud a publié ses études sur l'hystérie en 1895. Or, trois de ses patientes étaient justement des chanteuses, l'une souffrant de crises d'angoisse qui ont commencé pendant qu'elle chantait Carmen. Rosalie H., dont le cas figure dans les études sur l'hystérie, vient consulter parce que, pour certains sons, dans le registre moyen, sa voix ne lui obéit plus. Chaque fois qu'elle se voyait forcée de ne pas répondre, de supporter sans réagir quelque accusation révoltante, elle ressentait des grattements dans la gorge, un étranglement, de l'aphonie, etc., écrivent Freud et Breuer. La troisième souffre d'une contraction des masséters qui l'empêchait d'exercer son art. Je cite « À Rome, pendant une répétition, très émue, elle eut soudain l'impression de ne plus pouvoir refermer la bouche et tomba évanouie. Le médecin lui remit sans douceur la mâchoire en place, mais la malade devint incapable d'ouvrir la bouche de plus d'un doigt et dut abandonner la carrière qu'elle venait d'embrasser. » Fin de citation. Ces chanteuses, empêchées de chanter, souffrent de situations comparables à nos héroïnes d'opéra. Vulnérabilité, dépendance, injustice, oppression. C'est pas surprenant, car l'opéra a toujours mis en scène, donc dévoilé, des pulsions élémentaires, violentes, archaïques, généralement réprimées dans l'inconscient, ce qui fait dire à Michel Schneider, je le cite, qu'opéra et psychanalyse ne parlent pas la même langue, mais disent la même chose, ou que plaisir et douleur forment le ressort essentiel de l'opéra, tout comme la psychanalyse. Fin de citation. La sexualité humaine, censée rapprocher harmonieusement l'homme de la femme, est pleine d'empêchements, d'anomalies, de transgressions. L'échec, la punition et la mort sont omniprésents, et ne sont pas liés qu'à des facteurs extérieurs, mais plus secrètement au conflit entre le plaisir et la jouissance, source d'entraves et d'insatisfaction. En effet, dans la théorie analytique, plaisir et jouissance s'opposent. La définition la plus simple de la jouissance est contre-intuitive, puisque c'est de dire que la jouissance est ce qui va contre la vie. On ne peut pas parler de jouissance sans citer Jacques Lacan. Il y a dans l'envers de la psychanalyse une définition malicieuse et facile à comprendre, une fois n'est pas coutume. Je le cite. « La jouissance, c'est le tonneau des Danaïdes, et une fois qu'on y entre, on ne sait pas jusqu'où ça va. Ça commence à la chatouille et ça finit par la flamber à l'essence. » Fin de citation. Le principe de plaisir peut se concevoir comme un principe de régulation de la jouissance, qui, elle, cherche à en transgresser les limites que le principe de réalité oppose au plaisir. On peut facilement appliquer ces concepts à l'ensemble des sujets traités à l'opéra et aux patientes chanteuses hystériques de Freud. Mais si on admet qu'opéra et psychanalyse parlent de la même chose, ce n'est pas de la même façon. En effet, la psychanalyse permet d'appréhender le mystère de la voix pour qui elle est un objet, alors qu'on va à l'opéra pour le plaisir d'entendre des voix qui chantent. Jusqu'à l'époque très récente où l'opéra est surtitré, il était quasi impossible de suivre l'intrigue sans connaître le livret, puisque même en connaissant la langue dans laquelle l'opéra est chanté, les paroles sont difficilement compréhensibles si on ne les connaît pas par cœur au préalable. Plus on va vers l'aigu et les vocalises qui sont le propre des scènes de folie, moins les paroles sont compréhensibles, et seule la voix, distincte de la parole et de la signification, porte l'émotion. Cet attrait majeur de l'opéra fait dire à certains que ceux qui aiment l'opéra n'aiment pas la musique.
L'inconscient avec Caroline Eliechef sur France Inter.
Vous ne vous en souvenez pas, mais quand vous étiez dans le ventre de votre mère, c'était extrêmement bruyant. Avant même que Louis ne soit opérationnel, vers le 7e mois de la vie intra-utérine, vous entendiez déjà, par l'intermédiaire de votre enveloppe, de votre peau si vous préférez, car elle ressentait les vibrations transmises par le liquide amniotique, la voix de votre mère reconnaissable entre toutes dès la naissance et les bruits de ses organes, le bruit rythmé de son cœur, les bruits instables de ses intestins. Et, venant de l'extérieur, d'autres voix, plus ou moins familières, d'autres bruits et même de la musique.
Des chercheurs ont placé un micro dans l'utérus d'une femme enceinte. Ils ont enregistré la manière dont les bébés entendaient les sons du monde extérieur. La 5e symphonie, par exemple. À 6 mois, il réagit à la musique, comme on le constate en échographie. Il entend les conversations qui lui parviennent assourdies. Le bébé se familiarise avec la voix de sa mère. Il est sensible à ses émotions.
Ah oui, ça j'ai des souvenirs très nets. Moi je voyais surtout des œufs sur le plat, sans le plat. Freud m'a dit que ça devait correspondre aux deux derniers mois avant la naissance. Une espèce de paradis intra-utérin dans lequel on se sent complètement protégé. C'est une espèce de nirvana, une espèce de paradis sublime, absolument paradisiaque.
On peut en déduire que la voix de la mère avant la naissance est une source de plaisir sonore et comprendre aussi pourquoi on peut plus tard ressentir les effets d'une voix sur la peau. Elle peut se remettre à vibrer sous forme de chair de poule, de tremblements ou de frissons. Selon les psychologues de l'Université du Wisconsin aux États-Unis, les bébés ont tous l'oreille absolue. En modifiant très légèrement la hauteur d'une séquence musicale, les chercheurs ont pu constater que les adultes ne remarquent aucune différence alors que les bébés y parviennent. Certains, mais ils sont peu nombreux, conservent cette oreille absolue, tandis que la plupart la perdent. Le petit enfant entend donc bien avant de comprendre, et le plaisir qu'engendre la voix est d'abord déconnecté du sens des mots, enfin ça c'est ce que nous croyons. Or, la voix, dans les scènes de folie, est avec le cri la forme la plus éloignée du langage articulé, la plus dépourvue de sens. Et ce sont toujours des voix de femmes, souvent abandonnées, toujours souffrantes, renvoyant le spectateur, qu'il le veuille ou non, à ses propres fantasmes d'abandon. Ceci explique peut-être pourquoi tout le monde n'aime pas l'opéra. L'opéra raconte toujours des histoires de mort et de séparation, et la voix que l'enfant a entendue avant de naître est celle dont il va être séparé à la naissance. Mais les héroïnes sont rarement des mères, plutôt des filles abandonnées par leur mère. Elles ont longtemps été chantées par des femmes obèses, sortes de mères magnifiées, dont le corps correspondait peu au rôle qu'elles chantaient. Pourtant on y croyait, ou on se forçait à y croire. La psychanalyse nous apprend également que toutes les sources de perception, l'ouïe, l'œil, la peau, la bouche et le nez, sont des zones érogènes soumises à l'excitation. Or, le spectacle de l'opéra en sollicite au moins deux, l'ouïe et la vue. Voir la voix, c'est voir l'invisible, et vous avez certainement ressenti un malaise quand à la télévision, une soprane est filmée de trop près, bouche étirée, ouverte, presque grimaçante, comme si on vous obligeait à voir ce qui doit rester caché. Pas tant la scène primitive, rarement vue et souvent entendue d'ailleurs, qu'une oralité archaïque, une pulsion de dévoration, engendrant la peur de dévorer ou d'être dévoré. Le mélange des sensations entre voir et entendre égare notre plaisir qui ne doit jamais être totalement satisfait pour relancer le désir. Voir, d'accord, mais de loin, car regarder la voix nue déconnectée du sens a pour effet paradoxal de ne pas la maintenir à distance, mais au contraire d'en être pénétré jusqu'au cœur. Ce qui fait dire à Michel Schneider, ce n'est plus une voix que vous écoutez, c'est une voix qui vous entend. Et si l'on pense, comme Paul Valéry, que l'écrit cache la voix, c'est pourtant par l'écrit que Flaubert, dans Madame Bovary, nous révèle qu'écouter de l'opéra permet de s'entendre.
Emma !
Monsieur vous attend, madame.
Vous voulez mon avis, vous devriez la sortir, l'emmener au spectacle. Si quelqu'un pouvait me replacer, je vous accompagnerais volontiers. Le ténor Legardy vient donner une représentation à Rouen avant son départ pour l'Angleterre.
Emma assiste à une représentation de Lucia de Lammermoor et Flaubert, dont on peut reconnaître immédiatement la musique par le miracle de la littérature, écrit d'Emma Bovary. Je cite. Elle reconnaissait tous les enivrements et les angoisses dont elle avait manqué mourir. La voix de la chanteuse ne lui semblait être que le retentissement de sa conscience et cette illusion qui la charmait, quelque chose même de sa vie. Mais personne sur terre ne l'avait aimée. Les amoureux parlèrent des fleurs, de leur tombe, de serments, d'exil, de fatalité, d'espérance. Et quand ils poussèrent l'adieu final, Emma jeta un cri aigu qui se confondit avec la vibration des derniers accords. On est toujours seul à l'opéra quand une diva chante, mais on n'est pas passif parce qu'on est touché et parfois même pénétré. Il arrive qu'on y résiste en ayant envie de tousser. Et on met alors toute son énergie à s'en empêcher, ce qui crée une tension qui vous éloigne de la voix, dont Proust écrivait dans Jean Santeuil à propos de la voix de sa mère, je cite, « C'est elle, c'est sa voix qui nous parle, qui est là. » Fin de citation. Mais il arrive que le plaisir ne soit pas au rendez-vous, et ceci de plusieurs façons. Quand le plaisir atteint la jouissance, il se traduit par de l'hostilité, des sifflements, des huées. Certains fanatiques traquent la fausse note ou le fiasco, la voix exposée au danger du déclin. D'autres sont des fétichistes de la voix, collectionnant sans fin des interprétations de telle ou telle diva. La chanteuse la plus idolâtrée, Callas, n'est pas celle dont la voix était la plus pure, mais celle qui comportait des ruptures, des cassures, des failles, des accidents même au sommet de sa gloire, laissant toujours anticiper qu'il allait se passer quelque chose d'imprévu, comme une exquise douleur. De la diva, on attend toujours la performance vocale, mais elle doit aussi incarner par son physique, son jeu, son âge, et même ce qu'on sait de sa vie privée, le personnage qu'elle chante. Aujourd'hui, il est fréquent que des artistes, dont le corps est l'instrument de travail, je pense aux acteurs et aux danseurs, mais aussi aux musiciens et aux sportifs, des artistes à leur façon, consultent un psychanalyste alors qu'un symptôme, physique, les empêche de se réaliser comme ils le souhaiteraient, exactement comme les chanteuses du temps de Freud, même si les causes de leurs inhibitions ont évolué comme la société a évolué. Les passions, elles, n'ont pas changé. La trahison, la peur de l'abandon peuvent encore et toujours rendre fou. Vous ne croyez pas ? Eh bien, depuis le XIXe siècle, même les neurosciences les plus pointues n'ont pas fait tellement mieux que la psychanalyse pour traiter ces symptômes. Mais si vous entendez quelqu'un dire sans retenue tout ce qui lui passe par la tête, est-ce que vous ne penseriez pas qu'il est fou ? C'est pourtant une règle que nous demandons aux analysants d'appliquer. Pas étonnant que ce soit si difficile.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec Caroline Eliachef.
Restez à l'écoute. Juste après le disque, je répondrai aux questions que m'ont adressées les auditeurs qui ont déjà écouté cet épisode. Je vous rappelle que nos sujets sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute et que vous pouvez laisser vos questions sur notre page L'Inconscient sur franceinter.fr ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Mais pour l'instant, place à la rage et à la voix puissante d'Adèle avec Rolling in the Jeep.
It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark.
C'est à vous maintenant de poser vos questions. Je vous écoute.
Bonjour, je viens d'écouter votre émission consacrée à l'opéra que j'ai trouvée vraiment passionnante. Et j'aimerais vous poser une question sur la différence que l'on peut repérer entre la haine qui va se déclencher lorsqu'une chanteuse ou un chanteur va rater une note, la plupart du temps aiguë, et l'empathie qui va, au contraire, que va rencontrer l'erreur, le faux pas de la danseuse. On pourrait voir exactement la même chose, par exemple, avec le trapéziste qui va rater son saut. Lorsqu'il va tomber dans le filet, il ne va pas se faire huer, au contraire. Comment vous interpréteriez donc, vous, cette différence extrême entre la violence de la haine qui se déclenche lorsque la note est ratée et l'empathie, le sentiment de compassion qui va s'exercer pour la danseuse ou pour le trapéziste quand ceux-ci viennent à rater leur partie artistique. Voilà. Je vous remercie infiniment encore pour vos émissions et puis à très bientôt. Au revoir.
Alors voilà une question qui m'a vraiment fait réfléchir parce qu'effectivement votre observation est tout à fait exacte. Alors, il se trouve que vous savez certainement ça. À La Scala, dans le temps, pas maintenant, mais dans le temps, il y avait une tradition de claque qui était très organisée et il y avait même un chef de claque. Ce chef de claque rançonnait les chanteurs pour pas qu'ils soient sifflés. Alors, je crois que ça n'existe plus, mais effectivement, encore récemment, une soprane a été huée à l'Opéra Bastille, donc ça se pratique encore. Alors, qui hurle? Qui crie? Ce sont des hommes. Je ne crois pas avoir vu une femme huer une diva. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui, je pense, pour certains d'entre eux, sont ce que j'appelle des fétichistes de la voix. C'est-à-dire que la voix est leur fétiche et la soprane qui défaille leur casse leurs jouets. Et ils se mettent, je crois, à crier comme les enfants à qui on a cassé son jouet. Et c'est très surprenant parce que ils crient et ils sifflent en direction de la soprane, mais également en direction du public. Et voilà, donc la soprane ne peut plus chanter et eux prennent la place de la soprane. Voilà ce qui se passe encore aujourd'hui à l'opéra, et c'est arrivé. Ça arrive aussi au ténor. En particulier, c'est arrivé à Roberto Alagna. Et quand ça lui est arrivé à La Scala de Milan, alors La Scala, ils sont particulièrement féroces. Je n'y étais pas, mais on m'a rapporté qu'il avait quitté la scène. Voilà. Alors maintenant, votre remarque concernant les danseurs ou d'autres est tout à fait exacte, mais j'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce ne sont pas les fétichistes de la voix qui compatissent. Alors, cette compassion, elle existe, mais par exemple, si quelqu'un se casse la figure dans la rue, vous allez, j'espère, si vous êtes bien élevé, vous allez essayer de relever cette personne et compatir. Quand une personne est en représentation, une danseuse ou autre, ça n'est pas du tout la même situation. Effectivement, vous allez compatir, mais, il me semble que, au fond, votre compassion vient masquer vos mauvaises pensées. Je m'explique. Avec une danseuse ou un acrobate, vous êtes au spectacle. Vous n'êtes pas là pour attendre la faute. Il n'empêche que quand elle arrive, je crois que vous compatissez parce que vous avez un petit peu honte d'avoir quand même attendu la faute.
Bonjour, je suis Catherine, je suis mélomane. Alors concernant les fœtus dans le ventre maternel, comment les traces de ce qu'ils ont entendu in utero peuvent-elles se retrouver après la naissance? Et deuxième question, pourquoi avec la voix à l'opéra en particulier, y a-t-il une proximité entre le plaisir et la jouissance qui est plutôt du côté de la mort, si j'ai bien compris? Ceci n'existe pas avec le plaisir de voir un tableau, par exemple. Je vous remercie pour vos réponses à mes questions.
Merci Catherine pour cette question. La façon dont un fœtus perçoit les vibrations a été maintenant très largement étudiée. Elle est largement aussi documentée. Il faut avoir quelques notions d'embryologie. Ces notions d'embryologie, vous savez que dès 20 jours, dès 20 jours de conception, on ne parle pas encore de fœtus, il y a trois feuillets. Un feuillet extérieur, l'ectoblaste, qui va donner l'épiderme et le tissu nerveux. Le mésoblaste, celui du milieu, qui va donner le squelette, les muscles, le tissu conjonctif, le cœur, le poumon, le rein et la vessie. Et l'endoblaste, qui va donner les glandes digestives, l'épithélium digestif et respiratoire. À 21 jours, le cœur bat. Le tube neural, lui, va se refermer à 28 jours et l'endoblaste et le mésoblaste vont se réunir. Et donc, le fœtus va percevoir des vibrations avant que le tympan soit constitué. Le tympan se constitue à la 25e semaine. Et donc, ces vibrations ne vont pas seulement toucher la peau, elles vont également toucher le mésoblaste. Et donc, cette inscription va se faire très précocement et très profondément. Voilà. Et donc, évidemment, ça va se retrouver pas seulement à la naissance, ça va se retrouver pendant toute la vie. Mais pour retrouver ces sensations, ben, je ne sais pas très bien comment on fait. Je crois qu'on les retrouve quand il y a eu blessure, quand il y a eu cicatrice. Et c'est seulement dans ces conditions, avec éventuellement en faisant de l'aptonomie ou en faisant une psychanalyse avec quelqu'un qui est un petit peu formé à ce genre de choses, que éventuellement on peut retrouver ces choses extrêmement profondes et enfouies. Alors évidemment, comme vous l'avez noté, c'est différent avec ce que l'on peut percevoir en regardant un tableau, parce que la vue, il n'y a pas de vue fonctionnelle chez le fœtus, c'est beaucoup plus tardif. Donc les sensations visuelles ne sont pas tout à fait comparables aux sensations synesthésiques qui, elles, sont bien antérieures. Voilà, j'espère avoir répondu à peu près à votre question.
L'inconscient avec Caroline Eliechef sur France Inter.
Bonjour et merci pour ces émissions que je trouve très riches et fascinantes. J'ai une question sur l'évolution d'une pratique, la psychanalyse, née avec Freud à une époque très différente et avec des connaissances et une conscience très différentes des choses. Et je me pose la question sur notamment deux plans. La première, le cadre du patriarcat et son influence sur les théories freudiennes. Et comment vous faites évoluer tout ça avec les prises de conscience actuelles sur les contraintes que pose la société patriarcale aux femmes et comment l'évolution de la société va, je l'espère, changer aussi la vie de la psyché des femmes et des hommes. Et ma deuxième question porte sur la place du corps et des thérapies psychocorporelles plutôt que des thérapies qui passent uniquement par la parole. Merci.
Merci de cette question. Écoutez, il m'arrive de dire que même la messe a changé. Et donc, si même la messe a changé, je crois que effectivement la psychanalyse, elle aussi, change. Les théories psychanalytiques ne sont pas faites pour être appliquées. C'est le contraire. C'est par la pratique que nous pouvons développer des théories éventuellement nouvelles. Donc voilà, quand on reçoit des gens aujourd'hui, on écoute des gens aujourd'hui, et effectivement, les pratiques ont évolué parce que tout a évolué. Est-ce que les théories évoluent ? Certaines peuvent évoluer, d'autres moins. Et effectivement, c'est notre travail, si vous voulez, de rendre la psychanalyse vivante. La psychanalyse, c'est pas un dogme qui doit être appliqué. C'est une pratique essentiellement vivante, et c'est de la clinique que nous tirons les théories. Voilà, ça c'est la première partie de votre question. Vous me posez la question sur les thérapies, ce que vous appelez psychocorporelles. Alors je n'ai pas d'opinion ni négative ni positive sur les thérapies psychocorporelles qu'il m'arrive éventuellement d'indiquer, car je pense qu'il y a des indications. Il n'empêche que la psychanalyse permet d'articuler le corps à la parole. Et donc c'est pas parce qu'on est allongé sur un divan et que on n'a pas de pratique corporelle que la question du corps n'est pas au centre de la psychanalyse.
Bonjour, ici Jean-Pierre. Je voudrais poser une question à Caroline Eliachef et lui demander si elle ne pense pas que le fait de demander aux patients de dire tout ce qui leur passe par la tête librement ne pourrait pas coïncider avec une peur de devenir fou, comme en témoigneraient justement les personnages de l'opéra dont elle nous fait part. Associer librement peut en quelque sorte créer une résistance si le patient ressent intuitivement que c'est la voie de la folie. Mais peut-être que en passer par une folie tempérée par le transfert serait une façon d'atteindre des couches de la psyché qu'on n'atteindrait pas autrement. Merci de bien vouloir me répondre.
Merci beaucoup pour cette question un peu mystérieuse. Effectivement, dans une psychanalyse, on demande à l'analysant d'associer librement, ce qui est totalement contre-intuitif. La situation est très particulière parce que il parle, le psychanalyste est derrière lui, et donc il est censé associer librement sans pouvoir percevoir ce que cela fait à l'analyste qui est derrière lui. Ceci, en principe, pour justement favoriser ces fameuses associations libres. Ces associations, elles ont pour le projet, quand même, c'est que l'analysant puisse aller d'une idée à l'autre et de trouver éventuellement un fil directeur. Mais il peut aussi se perdre par ces associations libres, et d'une certaine manière, effectivement, il peut en avoir peur. Mais l'analyste aussi peut avoir peur d'écouter un patient qui associerait vraiment librement. En pratique, très peu d'analysants, et peut-être moi-même alors que j'étais analysante, arrivent à réaliser justement ces associations libres. Est-ce la peur de devenir fou ? Peut-être. Mais c'est aussi, il faut lever aussi un certain nombre de choses, parce que nous avons été éduqués précisément à ne pas dire n'importe quoi à n'importe qui et dans n'importe quelle circonstance. Donc c'est une situation tout à fait particulière, et en fait c'est une des règles probablement les plus difficiles à observer. Peut-être aussi que c'est pour ménager l'analyste, pour pas le rendre fou. Merci pour vos questions et merci à Benjamin Vignal à la technique, Valentine Chetbois pour le choix du disque, Franck Olivard qui récolte vos questions et Audrey Ripouille à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Laurie Loffer autour de cette question de patient, comment survivre à la disparition d'un proche. D'ici là, vous pouvez écouter son podcast sur notre page internet L'Inconscient, sur franceinter.fr, et lui laisser vos messages. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 12 mars autour de cette question : à quoi sert de parler à un enfant ?